Sur votre radio associative, suite d'un des feuilletons économico-culturels arrageois, le projet d'hôtel 5 étoiles à l'abbaye Saint-Va. On en parle aujourd'hui avec l'association Les Amis de l'abbaye Saint-Va. Cette association a récemment déposé un recours devant le tribunal administratif de Lille pour contester une décision de la ville d'Arras de verser près d'un demi-million d'euros au groupe hôtelier qui devait porter le projet avant d'être placé en liquidation judiciaire. On essaie d'y voir un peu plus clair avec Alain Duez, Michel Faure et Yves Camier, tous trois membres de l'association Les Amis de l'abbaye Saint-Va.
Il a d'abord été créé un collectif en 2018, suite à la décision de la mairie d'installer un hôtel 5 étoiles au sein de l'abbaye Saint-Va. Ce collectif a diffusé un premier manifeste pour alerter de la nocivité de ce projet. Ensuite, ce collectif s'est converti en association en 2020. Pour nous faire connaître, nous avons créé une page Facebook qui diffuse régulièrement des articles, enfin qui a diffusé et qui continue de le faire, des articles explicitant les motifs pour lesquels nous nous opposons à ce projet d'hôtel au sein de l'abbaye.
Alors justement, oui, est-ce que vous pouvez nous donner quelques-unes des nombreuses raisons pour lesquelles vous vous opposez à ce projet ?
Alors, il y a plusieurs raisons. On va dire une raison d'abord architecturale. C'est un monument historique. L'installation d'un hôtel va poser question sur comment on installe 98 chambres, 98 salles de bain, des tuyaux de chauffage, etc. Donc, il y a cette question sur l'architecture et l'histoire, donc. On a alerté aussi financièrement, puisque le projet est un gros projet pour la ville d'Arras, qui va prendre énormément de ressources. Donc nous ne sommes pas les seuls à le dire, parce que assez rapidement, la Chambre régionale des comptes avait déjà alerté en disant « attention, il y a effectivement un déséquilibre entre l'importance du projet financièrement et les finances de la ville ». On a aussi alerté sur l'aspect culturel. On va avoir la moitié de l'abbaye Saint-Va effectivement occupée, puisque aujourd'hui elle est vide. Mais là où on a un problème, nous, c'est avec le musée. Le musée sera, semblerait, à surface égale, mais ça ne suffit pas d'avoir surface égale, c'est-à-dire que dans le projet, de ce qu'on nous a dit jusqu'à maintenant, c'est le musée au premier étage, jusqu'au deuxième, voire troisième, avec une salle d'exposition au deuxième. Donc, on n'a pas la même façon d'accéder à un musée quand on est au premier étage. Et puis alors, ce qui nous ennuie aujourd'hui, c'est cette difficulté qu'on aura de fermer un musée pour 10 ans. 10 ans de travaux. Alors, je ne sais pas si c'est 10 ans de travaux, mais c'est 10 ans de fermeture sur le papier. Ce sont quelques générations de scolaires qui n'iront pas au musée d'Arras, qui ne connaîtront pas. Et parfois, des gamins qui font découvrir un musée, ils deviendront, parce que ça leur a plu, ils deviendront guides, ils deviendront historiens, peut-être certains artistes. Voilà, donc on a aussi ça dans notre démarche.
En ce qui concerne le musée, il y a un gros projet qui s'appelle la Fabrique de l'imaginaire, qui a pour objectif de faire une sorte de fusion entre la médiathèque et le musée, dans une sorte de maelstrom. On ne sait pas trop comment ça va fonctionner, mais ceci a été explicité dans le PCSES, c'est-à-dire le projet culturel, scientifique, économique et social, dans lequel on parle de choses relativement incompréhensibles et qui sont complètement surréalistes. Aujourd'hui, on ne sait pas ce qui se passe au musée. On n'y a plus accès, mais on est en train de tout chambouler, en permutant en particulier la médiathèque et le musée. Qu'est-ce qu'il en sera ? On ne sait pas. Il a été question de concentrer, de répartir la médiathèque autour du cloître. Quand on connaît les dimensions de la largeur du cloître, on ne sait pas très bien comment on va circuler, comment on va installer des espaces de lecture, etc. On trouve que ce projet est très mal ficelé et complètement idéologique.
Ce qui nous étonne aussi d'une manière générale, c'est que la population n'a pas du tout été associée en amont au projet. Alors ça nous est présenté au fur et à mesure comme étant indiscutable, obligatoirement passer par ce dispositif. Mais toujours est-il que ce qui nous étonne d'autant plus, c'est une certaine, le recul qu'a les organismes nationaux d'État chargé de suivre ces affaires, notamment la DRAC et notamment le contrôle de légalité. Et ce qui nous étonne beaucoup, c'est de voir par exemple que le musée, qui est un musée classé depuis de très nombreuses années, n'est absolument plus dirigé par quelqu'un qui répond aux conditions statutaires, c'est-à-dire quelqu'un qui assure la sécurité de l'ensemble, et pas seulement la sécurité scientifique de l'ensemble, qui n'existe plus au moment où on est en train de chambouler tout ça, transporter les œuvres. Enfin, on ne sait rien. On ne sait rien de la méthode utilisée. Et donc, il y a quelque chose qui nous étonne, c'est justement cette passivité ou cette complicité des organismes qui sont chargés de surveiller. Et surtout, leur manque de communication à l'égard de ceux à qui ils devraient rendre des comptes, c'est-à-dire à la population. On voit donc le projet qui est comme privatisé par ce que j'appelle un clan, qui le défend et qui en fait sa propagande dans par toutes les voies qui existent ici sur la ville. Et l'absence de, en ce qui nous concerne, de la capacité de nous exprimer et surtout de nous entendre. Parce que, curieusement, nous avons chaque fois attiré l'attention et la réponse, ça n'est que le mépris, voire la limite de l'insulte.
Alors, l'argument principal de la ville d'Arras pour ce projet, c'est qu'il faut sauver le patrimoine. C'est la seule manière de trouver de l'argent pour les gros travaux de rénovation et de réfection, notamment du toit et d'autres parties de l'abbaye Saint-Va. Comment vous voyez cet argument ?
Mais là, tout le monde est d'accord. Ça fait 70 ans qu'aucun travaux n'ont été faits dans l'abbaye. Donc on se contentait de mettre des bassines dans les combles. Donc qu'aujourd'hui, la décision ait été prise de réhabiliter enfin le clos et le couvert, tout le monde s'en félicite. Par ailleurs, le problème, c'est que derrière ce projet absolument indispensable, viennent se greffer deux projets, un projet d'hôtelier et un projet de réforme, de restructuration culturelle de l'ensemble du musée de la médiathèque, qui ne se justifie pas. En particulier, si on pense au financement de l'hôtel, c'est pas du tout le partenaire hôtelier qui va contribuer à la réhabilitation de l'abbaye. Ça a été évoqué, on a dit un certain temps qu'on ne pouvait pas se passer de l'intervention d'un privé pour pouvoir réhabiliter l'abbaye, c'est faux. En fait, le partenaire hôtelier ne fait que s'installer gratuitement dans des locaux réhabilités, dans lesquels il installe un hôtel, en bénéficiant de la défiscalisation totale de son investissement et des intérêts d'emprunt. Puisqu'il y a eu, dans les années 2013, un cavalier législatif qui a autorisé à supprimer le plafond de défiscalisation dans les monuments historiques. Ce qui explique qu'aujourd'hui, dans un très grand nombre de monuments historiques, on voit fleurir des hôtels de luxe.
Alors, le projet suivait son cours, et puis patatras pour ce projet, puisque le groupe hôtelier se casse la figure, liquidation judiciaire. Donc, plus d'hôteliers pour habiter ce nouveau lieu. Peut-être une aubaine pour vous. Et puis, il y a aussi que vous pointez du doigt, donc cette décision, cette ligne du contrat qui stipule que la mairie doit de l'argent finalement à ce groupe hôtelier en liquidation judiciaire. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu cette situation ? J'essaie de résumer, mais c'est pas évident. Hein.
Oui, alors patatras, ça pourrait paraître quelque chose qui va vite. En fait, ça a été long quand même, puisque le groupe hôtelier a signé un protocole avec la mairie pour prévoir le projet. Et dans ce protocole, donc signé en 2020, on a effectivement l'ensemble de ce qui doit se faire, les relations entre eux. Alors en 2023, le groupe est en redressement judiciaire. Donc ça veut dire effectivement qu'on commence à regarder dans ses comptes pour voir qu'il a des difficultés au niveau du capital, etc. Donc c'est novembre 2023.
Décision du tribunal de commerce de Poitiers.
De Poitiers.
Et quand c'est comme ça, l'autorité change. C'est-à-dire que c'est la personne qui est désignée, ça n'est plus le chef, ça n'est plus l'entrepreneur qui prend les responsabilités. C'est pas encore le liquidateur, ce qu'on appelle. Mais c'est donc la personne désignée qui est un spécialiste, désignée par le juge, qui est celui qui va appeler l'ensemble des créanciers pour prendre la possession des décisions à prendre pour sauver le groupe. Dans un premier temps, il s'agit, pendant la période de redressement, de sauver le groupe. Donc, à ce moment-là, en novembre, dès novembre 2023, les créanciers sont appelés à fournir leurs éléments pour celui qui est appelé à diriger cette entreprise. Nous avons, nous, en ce qui concerne, saisi la commune pour dire « Attention, vous avez des éléments ». Naturellement, ça a été l'omerta, comme je dis, la dissimulation de tout ce qui était en la matière, parce que jamais nous n'avons eu de réflexion sur ce qu'il y avait à faire dans la situation où l'on se trouvait, nouvelle situation de redressement judiciaire, qui a duré quand même un an. Et un an où on n'a eu aucune information sur est-ce que la ville, parce que ce qui nous intéressait, c'est est-ce que la ville avait fait le nécessaire pour protéger ce qu'elle avait mis dans l'affaire. Puis ensuite, il y a la liquidation qui arrive un an après, en décembre, je crois que c'est le 5 décembre 2024. Là aussi, l'omerta perdure. Et ce n'est qu'au mois de juin, ou juin 2025, soit 6 mois après, où une délibération du Conseil prévoit l'indemnisation du groupement faillitaire, entre guillemets, puisque le groupement c'était 3 personnes, dont la principale, le groupe Naos, qui avait en fait de fait disparu de la liquidation. Voilà, donc la ville réagit officiellement par délibération en juin 2025 et décide d'indemniser, sur la base d'un article qui ne correspond pas à la réalité, de 450 000 en prétextant que ce demi-million est dû au groupement et en prétextant que c'est d'intérêt public puisque la ville se retire. Or, se retirer de quelque chose de qui n'existe plus, enfin, le groupement n'existant plus de fait, il y a une anomalie de réflexion et d'analyse.
Oui, vous voulez ajouter quelque chose ?
Oui, parce que effectivement, pendant de novembre 2023 jusqu'à 2025, l'association régulièrement posait la question en disant, alors c'était auprès de la responsable du projet qu'on croise assez souvent, et à chaque fois on demandait, alors vous en êtes où ? Attention, il y a la liquidation du judiciaire, il y a le redressement puis la liquidation, vous en êtes où ? Et à chaque fois la réponse c'était, ne vous inquiétez pas, on continue à travailler avec eux, l'hôtelier est toujours intéressé. Et quand on soulevait le problème en disant « attention, parce que redressement, liquidation, ça veut dire que des morceaux de l'entreprise vont être récupérés, rachetés, pas spécialement entièrement, ça peut être découpé, etc. » Et donc, nous, c'est qu'un projet, c'est pas un hôtel, c'est un projet. Donc, et toujours cette même, pour nous repousser comme ça, en disant « Non, non, mais vous en faites pas, on s'occupe de tout, ça se passe bien, on a de bons contacts. » Et puis on apprend effectivement en juin 2025 que en janvier 2025, la mairie, au lieu de se tourner vers le liquidateur, s'est mise en relation directe avec le groupement qui, quelque part, déjà n'existait plus, pour avoir un accord à l'amiable, pour sortir à l'amiable. La réponse, et ce n'est pas nous qui le disons, puisque c'est le maire qui le déclare, qui, effectivement, ils ont eu la réponse du groupement qui a été non. Et donc c'est là où, ne voulant toujours pas se tourner vers le liquidateur, et attendant, parce que c'est quand même, on va dire février, ils avaient déjà la réponse du groupement qui disait « Nous, on ne veut pas de sortie à l'amiable. » On attend 30 juin 2025 au conseil municipal pour commencer à présenter la délibération et c'est stratégique. 30 juin, une délibération, vous pouvez la remettre en cause 2 mois. Vous avez 2 mois pour la mettre en cause. Donc ça tombait juillet-août. Donc c'est vrai qu'il y a des difficultés, il faut que les gens soient là, il faut trouver aussi les avocats, etc. Alors autant il semblerait que les groupes hôteliers travaillent super bien en juillet-août, puisqu'ils vont répondre à un appel à la candidature, ce qui nous étonne. Et nous, effectivement, on a cherché à un moment un avocat et on a trouvé. Mais voilà, on sent qu'il y a toujours quelque chose sur ce projet qui, d'une part, pousse les Arrajois pour dire... Vous inquiétez pas, on s'occupe de tout et on vous dit ce qu'on veut.
Et donc, puis, votre association a posé un recours, alors?
Oui.
Devant le tribunal administratif, c'est ça?
Tribunal administratif de Lille.
Concernant cette décision du conseil municipal, c'est ça?
Oui, alors cette délibération présente la situation. Elle est intéressante à lire. Moi, je demande et je conseille à tous d'aller la lire. C'est un document administratif public. Elle est rédigée par comme les avocats de la mairie. Donc, ce n'est pas un document comme ça qui est fait sur le coin d'une table. Il est rédigé et quand on lit, on est assez étonné quand même. Puisque dans cette délibération, c'est de dire « Le groupement est défaillant. On a essayé de travailler avec eux à l'amiable, on n'y arrive pas. Ils sont donc défaillants. Ils limitent et l'entravent notre projet. Donc, on va se séparer d'eux. » Et là, la mairie explique qu'elle va prendre, c'est ce qu'on a dit avant, la mairie va dire « On va utiliser un des articles du protocole qui nous dit « Quand on sort de ce protocole, il y a une possibilité, c'est que la ville se déclare fautive. » Alors, c'est déjà là, quand on lit la délibération comme ça, on se dit... Alors, au début, on nous dit que le groupe est défaillant. Ensuite, pour sortir, c'est la mairie qui dit qu'elle est défaillante. Mais, si avec ça, c'est rien. Mais pour sortir, effectivement, de cette façon, il faut payer au groupement 450 000 euros. Pratiquement un demi-million d'euros.
Cette clause du demi-million ne concernait que le cas où c'était le groupe hôtelier qui abandonnait le projet. Donc c'est le groupe hôtelier qui est défaillant et c'est la ville qui paye une indemnité. Alors les 450 000 euros sont assortis pour la ville de la possibilité de récupérer, en quelque sorte d'acheter, les études préalables qui ont été faites dans le cadre du projet initial. Mmh. Alors, récupérant effectivement ces études, la ville a beau jeu de nous dire qu'on va les réutiliser pour le projet suivant, puisqu'il y a eu un appel d'offres qui a été lancé en même temps. Seulement, la ville a aussi, reconnu dans sa délibération que, par rapport à la situation économique et de prévision de fréquentation qui avait été élaborée dans les années 2020, oui, non, 2017, pardon. La ville reconnaît que nous ne sommes plus dans cette situation-là et qu'à ce titre, il fallait ajuster le projet sur le plan juridique et sur le plan économique. Mmh. Donc là, on se retrouve dans la situation où la ville achète des études qui ne sont plus adaptées au contenu du nouveau projet, qu'on ne connaît pas.
Alors un souci justement sur ces documents, puisque la délibération, elle doit être votée, elle a été votée par le conseil municipal. Et donc une délibération qui fait référence à des documents, l'ensemble doit être porté à la connaissance de ceux qui vont voter. Et en fait, ce qu'on a vu, c'est que cette délibération a été présentée avec l'argument de dire les 450 000 euros vont être équilibrés parce qu'on va récupérer des plans, des études, etc. On va payer même des heures d'architecte, nous a dit Madame Bigorne. Mais ces documents n'ont pas été présentés. Il y a des conseillers municipaux qui ont voté contre, qui ont demandé ensuite ces documents. Et ils ne les ont toujours pas. Donc là, il y a un souci, c'est qu'on a fait voter, alors pas seulement les gens qui ont voté contre, mais on a fait voter l'ensemble du conseil municipal sur une délibération pour laquelle ils n'étaient pas éclairés. Ça nous pose problème.
Alors ça donne quelle perspective? Donc il y aura une décision du tribunal administratif de Lille. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que ça soit rapide ou pas? Est-ce que le projet va suivre sa route ou pas?
Bon, il est certain que quand on a trouvé l'avocat, il a tout de suite précisé qu'il y avait quand même quelques anomalies, que lui-même avait été spécialiste en la matière et que c'était un peu gros puisque ça ne correspondait pas à la réalité, et qu'en plus de ça, il y avait plusieurs anomalies, c'est ce qu'on avait dit, c'est ce qu'on vient d'expliquer. Notamment que le conseil municipal n'avait pas été suffisamment éclairé. Et délibérant avec des éléments qu'il n'avait pas, ou qu'on n'a pas voulu lui présenter, ou qu'on a refusé de lui présenter, ou qu'on a dissimulé, il est certain que c'est un problème que le juge ne devrait pas manquer d'examiner. Alors, on ne part, je veux dire, gagnant cette affaire, parce qu'il y a suffisamment d'éléments écrits qui justifient la position que nous avons. Et ce qu'il y a de remarquable, enfin, remarquable dans ce dossier, c'est que c'est celui qui est lésé, puisque la ville a confié à un groupement le soin de faire quelque chose, qui renverse les choses et qui indemnise celui qui est fautif avec l'argent public. Alors, il y a un aspect qui n'est pas, que nous n'avons pas évoqué jusqu'à présent, mais qui mérite de l'être, puisque on est en droit public. La collectivité est une collectivité publique et l'argent qui est utilisé est de l'argent public. Donc il y a à la fois la responsabilité de l'autorité publique du décideur, qui est le patron, le maire, et puis de ceux qui se font appliquer et qui sont des fonctionnaires d'État, notamment la distinction entre l'ordonnateur et le comptable. Et dans cette affaire, le comptable ne devrait pas rester neutre. Peut-être a-t-il fait remarquer au maire que ce qu'il lui demandait de payer était discutable. On ne le sait pas, on ne le saura pas, et on reste là-dessus. Mais c'est une question que peut se poser le tribunal quand il va examiner les questions. Et ce qu'il y a, si on va plus loin, c'est que le comptable du Trésor a intérêt à avoir posé la question, et le maire a intérêt à avoir obligé le comptable du Trésor à le faire. Parce que la responsabilité pénale du fonctionnaire d'État, et dans ce cas-là, si le nécessaire a été fait, transféré sur l'ordonnateur, c'est-à-dire le maire. Voilà l'aspect juridique des choses à l'avenir.
Alors, en termes de date, alors ça...
Alors, on ne maîtrise pas le calendrier de la Cour tribunal administratif. Et le dispositif fonctionne de la manière suivante. Bon, enfin, notre avocat dépose son mémoire. Le mémoire est aussitôt transmis à la partie adverse, qui en prend connaissance et qui, par le juge, par le tribunal administratif, sait qu'il doit répondre, mais il n'y a pas souvent... Bon, d'ordinaire, c'est 2 mois, mais il n'y a pas, ça n'est pas fixé. Donc, on attend la réponse, le tribunal administratif attend la réponse de la partie adverse.
Vous voyez venir, peut-être, si je vous pose cette question de la date, c'est avant ou après les élections,
bah, évidemment,
parce qu'il y a quand même un enjeu. Est-ce que l'avenir de l'abbaye, c'est un sujet qui intéresse les Arrajois, qui va jouer d'une manière ou d'une autre dans le choix des Arrajois, des gens qui vont voter, et puis aussi dans les éventuelles candidatures?
Je pense qu'on est effectivement sur un dossier qui sera un dossier que l'on va présenter à l'ensemble des listes. À chaque liste, on va demander effectivement quelle sera leur position. Ça me paraît être vraiment, pour les Arrajois, un dossier qui va être une ligne rouge, emblématique, parce que ce dossier est aussi emblématique de cette équipe municipale. Puisqu'on a différentes choses quand même, voilà, différents éléments qui font qu'on commence à avoir un doute sur l'intérêt que peut avoir cette équipe sur la ville arrajoise, qu'est-ce qu'elle peut apporter. On sent, nous, plutôt une distance qui se fait, parce qu'on n'arrête pas de nous dire qu'il faut redonner l'abbaye aux Arrajois, c'est aussi un des slogans du projet. Ça ne veut pas dire grand-chose, surtout quand on voit ce qui se passe. Est-ce que faire un hôtel 5 étoiles dans un monument historique va faire qu'on redonne l'abbaye aux Arrajois? On en doute.
D'autant que l'abbaye est au cours de son histoire, a toujours été au service du public. Que ce soit à partir du moment où la ville est devenue propriétaire de l'abbaye, l'ensemble du bâtiment a été occupé par un certain nombre d'associations, de services publics, d'activités culturelles, qui font que, en parallèle avec le musée et la médiathèque, on avait un ensemble globalement dédié à l'activité culturelle et aux services publics. Or là, on va scinder en deux le bâtiment, ce qui va rompre son unité architecturale, qui va poser un tas de problèmes de circulation, de contrôle des flux, population, etc. Et on va casser cette vocation de ce bâtiment.
Oui. Je dois ajouter que puisqu'on parle de futur projet municipal, que dans un projet public municipal, d'ailleurs, on ne cesse, parce qu'il est déjà aujourd'hui presque esquissé. Enfin, on voit beaucoup d'inaugurations, d'explications en cette période préélectorale. Nous, ce qui nous projette dans l'avenir, on dit, bon, allez, 70 ans, puisque c'est présenté comme une mise à disposition d'un privé pour 70 ans. Sauf que dans 70 ans, plus personne de nous ne sera là. Mais comment vous allez retransformer les lieux si on décide de... Tiens, si on décidait d'étendre le musée, par exemple, en mettant quelques idées comme ça, parce que, qui n'ont pas du tout été développées, mais qui auraient pu l'être. Capitale de la draperie à Arras, de la tapisserie, il n'y a pas de musée, en dehors de celui d'Aubusson, dédié à la tapisserie en France. C'est l'occasion, ça a été l'occasion, d'étendre la capacité actuelle actuelle, jusqu'à l'année dernière, du musée en tant que tel. Et puis ce qu'on a bien vu par le passé récent, c'est l'abandon total du soin qu'on mettait au musée lui-même, et ne serait-ce que ne pas désigner un conservateur répondant aux conditions normales. On voit bien qu'il y a une volonté de rabaisser la fonction historique de cet ensemble, que moi, étant jeune, j'ai connu comme étant un lieu de vie extraordinaire. J'ai rappelé les éclaireurs de France qui y étaient, mais il n'y avait pas que les éclaireurs. Il y avait aussi, outre le musée, il y a eu un moment un musée de la déportation. Il y avait des services de l'État qui étaient ouverts au public. Je veux dire, le plus grand étant la trésorerie générale du Pas-de-Calais, qui était dans cette aile, qui était abandonnée. Et ce qu'on voit, c'est que ce sont les mêmes qui, au pouvoir, ont fait en sorte de donner la maladie, c'est-à-dire ne plus rien avoir là-dedans, et le descendre ce qui restait, pour justifier l'installation d'un machin privé dans cet ensemble, qui privera à l'avenir de toute possibilité culturelle d'extension. Donc, le système, on va aujourd'hui décider que le système est figé en fonction d'un intérêt privé, qu'on nous fait passer comme un intérêt général, qui, hôtel 5 étoiles, je ne pense pas que ça intéressera beaucoup d'Arrajois, peut-être certains, mais on ne voit pas bien quel est l'aspect général service public de cet organisme privé qui va venir se planter là. Je passe sur tout ce qui est, ce qu'on a rappelé tout à l'heure, l'aspect architectural, l'aspect
écologique.
Aussi, ah bah évidemment, puisqu'en plus de ça, on n'en a pas parlé. Oui. Mais en plus de ça, quand on apprend que la ville va payer à ses frais, avec exclusivement de l'argent public, un dôme destiné à servir les intérêts du groupement privé, je veux dire, pour un défenseur du service public et un défenseur du bien public, c'est absolument ton cul par-dessus tête. Et c'est vraiment oublier l'intérêt fondamental de ce pourquoi on est élu, c'est-à-dire servir les intérêts de la majorité et de ce qu'on appelle le service public, et pas des intérêts particuliers de certains gens qui ont... Je veux dire, certes, les finances, certes, le pognon, mais il me semble qu'en République française, ce n'est pas une République normalement, enfin, c'est ce qu'on nous a appris, ce n'est pas une République qui est basée sur ceux qui possèdent l'argent au détriment de ceux qui n'en possèdent pas. C'est une République de citoyens. Et donc, il y a cet aspect de citoyenneté, cet aspect de service public, d'intérêt public. Et moi, j'ai une idée aussi, qui est peut-être liée à ma formation, mais... C'est du patrimoine public, et le patrimoine public, c'est le patrimoine de ceux qui n'ont rien. Et ceux qui n'ont rien, ils se reconnaissent là comme étant leur patrimoine, même si ce n'est pas leur bien propre, ça leur appartient. Et ça leur appartient collectivement. Et pour ça, on y tient et on ne veut pas y faire n'importe quoi, fût-ce un hôtel de luxe. Donc voilà, globalement, philosophiquement, notre, je crois, résumé aussi le caractère de la défense de l'intérêt des lieux. Parce que vraiment, je pense que jusqu'à présent, on en a eu des municipalités, j'en ai bien connu, dont l'essentiel n'était pas l'intérêt de la culture. Mais jamais ils n'auraient osé penser ce genre de choses. Alors aussi particulièrement, c'était pensé parce qu'il y a eu les propositions, puis qu'aujourd'hui c'est la tarte à la crème, enfin, un peu dépassé. Les fameux PPP... public-privé, machin, partenariat public-privé, c'est un peu dépassé parce qu'on s'est aperçu que les collectivités ou les services publics qui avaient utilisé cette méthode-là avaient à payer sous forme de loyer beaucoup plus cher que ce qu'ils n'auraient payé s'ils l'avaient fait eux-mêmes. Donc, voilà quelle est notre philosophie générale de l'action.
Alors, on a parlé de la première délibération donc, qui engage la ville d'Arras à rembourser près d'un demi-million d'euros au groupe hôtelier actuellement en liquidation judiciaire. Oui. Il y a une deuxième délibération municipale sur laquelle vous avez réagi. Oui. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette délibération ?
Alors, cette deuxième délibération qui était donc au conseil municipal du 30, donc suite à la délibération sur les 450 000 euros, cette deuxième délibération, effectivement, prévoit la création d'une commission dans laquelle il y aura des élus, mais il y aura des experts aussi qui vont être réunis afin de repérer les candidats qui vont répondre à l'appel à candidature. Donc, OK, présidé par le maire, il y aura 10 siégeants. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il faut se souvenir que dans le protocole de 2020, il était prévu la signature d'un bail pour l'hôtelier, entre l'hôtelier et la mairie. Le bail n'a jamais été signé, non pas parce qu'il avait des problèmes financiers, c'était pas du tout ça. Au début, c'était effectivement prévu la signature d'un bail. Le problème, c'est que l'organisation d'un privé au sein de ce monument historique et tout, il y a un problème, il faut trouver le bail qui va être adapté. Donc, ils avaient d'abord pensé à un bail à construction, et là, l'association à l'époque avait dit « Ah, attention, parce que là, il y a des contraintes, etc. » Donc, ils avaient retiré un petit peu sur ce sujet.
Il faut déclasser complètement le bâtiment.
Et ensuite, ils avaient prévu donc un bail emphytéotique, mais les contraintes du bail emphytéotique font qu'ils n'ont jamais pu le signer. Et là, en fait, la deuxième délibération, elle nous dit on fait un nouvel appel à candidature, on va mettre une commission en place et il prévoit effectivement le bail. Et là, on va un peu plus loin, je lis. À ce stade, le type de contrat envisagé par la ville est soit un bail à construction, donc on sait déjà que ce n'est pas possible, soit un bail emphytéotique administratif. On sait aussi, parce que l'expérience, on l'a vu, ça ne fonctionne pas. Soit encore, et là c'est le plus intéressant, soit encore une convention d'occupation du domaine privé, dans la mesure, en effet, où le déclassement et la sortie du domaine public seront actés préalablement à la signature effective du contrat. Donc là, celui-ci, ce bail, c'est nouveau, il est effectivement, il pointe la nécessité de déclasser et de sortir du domaine public. Donc nous avons, l'association a encore du travail.
Et bien à bientôt alors pour la suite du feuilleton. On écoutait Michel Faure, Alain Duez et Yves Camier, membres de l'association Les Amis de l'Abbaye Saint-Va, au micro de Radio PFM. C'était le 17 octobre dernier. Retrouvez tous nos sujets sur ce dossier, on suit ça depuis 2019 quand même, sur radiopfm.com avec le hashtag Saint-Va.